Mon cher Hugues, pourquoi les chansons et les musiques sont-elles absentes du podcast ?
Ah, c'est une question de droit d'auteur, mon cher Rudy. On vous donne le teaser, mais l'action complète, c'est sur ovio.be.
Donc ici, c'est une sorte d'avant-goût. Et là-bas, sur ovio.be, c'est le festival complet.
La première.
19h-20h.
La semaine des 5 heures.
Hugues Daillé, Rudy Léonet.
Il n'y a pas de doute, c'est nous. Bonsoir, mon cher
Mais
Hugues.
Mais bonsoir, mon cher Rudy.
Et nous saluons avec les hola
de rigueur.
De rigueur, notre ami Julien Demeuze qui est aux commandes ce soir.
Très bien.
L'homme aux 6 bras.
Ah oui.
Ouais. Vous allez bien ?
Mais ma foi, je suis un peu émotion ce soir.
Oh.
Oui, parce que j'ai une sorte de salut l'artiste anniversaire. Je vous expliquerai tout ça après que vous ayez évidemment démarré.
Un anniversaire d'un départ.
Un anniversaire d'un départ. Et d'un départ pour moi d'une personnalité très chère
bon,
à mon cœur.
Bon, n'en dites pas plus.
Voilà.
Moi, je voulais aussi vous parler d'une jeune chanteuse qui est chère à mon cœur.
Ah.
J'aime bien. En plus, cette jeune fille, qui est anglaise, sort son tout premier album et elle n'était pas destinée à être exposée comme elle l'a été, parce qu'elle a un look un peu d'étudiante studieuse et appliquée.
Ah, Madame ben Emerson
Oui, effectivement, elle s'est un peu arrangée dans la même, dans le même profil, la même silhouette que Valen
Emerson. C'est plutôt professeur de mathématiques, c'est pas étudiant.
Ici, c'est plutôt élève de mathématiques.
Ouais.
Donc cette chanteuse a pour nom Morgan Harper Jones, et on en a déjà parlé parce que malgré elle, elle a été surexposée parce qu'elle a eu la chance il y a quelques mois d'avoir quelques-unes de ses premières compositions épinglé par un chercheur de musique et et de chansons pour une série Netflix qui avait pour nom, qui a toujours pour nom, puisqu'elle est toujours disponible, Love at First Sight. On en avait parlé ici. Et tout à coup, cette jeune fille relativement effacée, d'ailleurs la pochette de son album, on voit son visage, mais elle est photographiée à travers l'épaisseur d'un gros aquarium, donc un peu flouté.
Oh.
On voit bien que voilà, elle n'est pas là pour la ramener, elle est surtout là pour écrire et pour chanter. Du coup, à cause de cette série Netflix, elle a été pendant de nombreuses semaines l'une des artistes les plus chasamées au monde. Donc les gens cherchaient, mais qui est cette voix derrière ces chansons qu'on peut entendre ? Et donc, cette série et cette position dans la bande originale de cette série Love at First Sight l'a mis dans un avant-plan, dans un focus, dans une sorte de mise en avant qu'elle ne cherchait pas forcément. Mais elle continue à tracer sa route avec un tout premier album qui vient de sortir et qui a pour nom cet album Up to the Glass. Elle s'appelle Morgan Harper Jones et sa chanson a pour titre Alone with You.
I wanna be alone. Oh, you make me so angry. It's almost like you trying to. I wanna be alone.
Alone with you, Morgan Harper.
With you,
Jones.
Jones.
J'espère qu'elle m'en voudra pas.
Alors, mon cher Rudy, le 24 avril prochain, cela fera déjà 5 ans que l'ami Jean-Pierre nous a quittés. Je veux parler de Jean-Pierre Marielle. Cher à mon cœur, cher au cœur de nombreux cinéphiles. Donc, il a disparu le 24
avril. Et cher à votre répertoire d'imitateurs, je pense.
Je ne vais pas trop me lancer dans des imitations.
Ah oui, on est sur un hommage. Oui.
Quand même. Enfin, bien, de toute façon, tout ça est toujours plein d'amour. Et il ne va pas y avoir un grand festival Jean-Pierre Marielle. Donc, il est décédé à 87 ans. Et simplement, en toute discrétion, son épouse et sa veuve, qui est également comédienne, mais plutôt comédienne de théâtre. Elle a partagé l'affiche avec lui. Elle a joué le Nouveau Testament de Sacha Guitry, que j'ai eu l'occasion de voir, qui était une pure merveille. Elle a joué Les mots et la chose de Jean-Claude Carrière. Bref, elle était partenaire de scène régulièrement. Elle s'appelle Agathe Natanson. Et Agathe Natanson publie...
Ah oui, mais je connais.
Publie un un livre...
J'allais dire, même moi je connais.
Voilà, elle fait de la télévision aussi, c'est marrant, là, on peut la retrouver toute jeune dans la série, la merveilleuse série de Maurice Pialat qui s'appelait La Maison des Bois, où elle fait quasi ses débuts. Voilà.
Parce qu'en vrai, le théâtre, c'est un endroit où il y a des gens en vrai scène, ce n'est pas des hologrammes, c'est des gens en vrai. Et ils viennent tous les soirs.
Attendez, ça, peut-être que ça va arriver, les hologrammes.
Au théâtre, je vous en parle vendredi.
Oui, moi, je suis persuadé qu'on va.
En fait, les comédiens reviennent tous les soirs pour refaire la même chose.
C'est incroyable.
En vrai.
C'est de l'artisanat.
C'est dingue.
C'est de l'artisanat. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, les dernières années de son existence, Jean-Pierre Marel était atteint de la maladie d'Alzheimer et très longtemps, quand il n'était pas encore trop atteint, il a réussi à donner le change, mais en sécurité, il avait sa femme, Agathe Natanson, qui lui servait de souffleuse. Il avait une oreillette et quand il avait éventuellement des pertes de mémoire temporaires, eh bien, malgré tout, il parvenait à continuer à jouer. Et c'est une relation à la fois amoureuse, privée, une relation professionnelle extrêmement riche et précieuse. Alors, Agathe Natanson vient de publier il y a quelques jours, un petit livre qui s'appelle « Chantons sous les larmes, lettre à Jean-Pierre Marielle ». Et elle raconte, ce sont effectivement des lettres, elle raconte son expérience de veuve et comment est-ce qu'on vit après avoir vécu. Elle était sa cadette de 14 ans. Elle a aujourd'hui 77 ans, Agathe Natanson. Et elle exprime avec beaucoup de pudeur la difficulté de vivre cet état, ce veuvage, parce qu'il y a plein de questions qui se posent. Est-ce qu'on reste dans la maison avec tous les souvenirs, avec à la limite encore le vieux veston et des lettres dans le bureau, ou bien au contraire, on essaye de faire table rase et de passer à autre chose, et toutes ces questions que probablement énormément de veufs ou de veuves se posent, elle les pose, et en plus avec en filigrane quand même un portrait de Jean-Pierre Marielle. Mais je vais y venir parce que quand on pense Jean-Pierre Marielle, on pense évidemment, on pense à une voix, on pense à une dégaine, et il se fait que Marielle lui-même, comme quoi il était très 5 heures, avait publié, c'est pas un livre qu'il avait écrit, il avait, avec son beau-fils, avec le fils d'Agathe Natanson, il avait enregistré en quelque sorte des confidences et ça avait été mis en forme, sous forme d'abécédaire.
Un peu comme Paul Newman.
Un peu comme Paul Newman, exactement, un peu comme Paul Newman. Et ça avait été mis en forme à la manière d'un abécédaire, ça a été publié il y a... En 2011, je pense, et ça s'appelait « Le grand n'importe quoi ».
Ah, c'est nous.
C'est formidable titre.
Enfin, c'est surtout eux.
Formidable titre. Non, 2010. Et donc, y a une manière d'évoquer plein de choses. Je me souviens, entre autres, quand il évoquait sa rencontre avec Samuel Beckett, qui était un de ses auteurs favoris. Il dit, je le croise en rue. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller discuter avec lui? Et tout compte fait, je me suis rendu compte que meilleure manière de l'admirer, c'était de lui foutre la paix.
Pas mal.
Je trouvais ça merveilleux. Voilà. Et justement, pour réentendre cette voix, j'ai interviewé...
Avis aux amateurs de selfies et autres autographes.
Voilà. J'ai interviewé plusieurs fois, j'ai eu la chance d'interviewer plusieurs fois cet acteur que je vénérais. Et justement, à l'occasion de ce petit livre, je l'avais rencontré, il était venu à Bruxelles, et il racontait, mais avec une sorte de détachement et d'humilité, le fait qu'il a fait partie de ce qu'on appelle la bande du conservatoire. C'était quoi la bande du conservatoire? C'était Belmondo, c'était Rochefort, c'était lui, c'était Pierre Vernier, c'était Françoise Fabian, et ils formaient une bande extrêmement soudée, et en même temps, ils n'en tirent pas une gloriole particulière. On l'écoute.
On avait le sentiment d'être des travailleurs, d'être un peu des marginaux. On était au conservatoire, on était des comédiens. Et c'était des gens un peu bizarres. On disait, ah, votre fils est comédien. Mon père, oui, mon fils est comédien. Et alors il disait, il est au Conservatoire National d'Art Dramatique. Conservatoire National. Ah oui, ça impressionnait les gens. Alors les gens se disaient Conservatoire National d'Art Dramatique, ça les impressionnait beaucoup.
Et vous avez été impressionné par quoi? On évoquait brièvement la figure de Beckett, mais est-ce qu'il y a eu
des figures tutélaires où vous vous êtes dit c'est quand même un vrai métier?
Oui, oui, les gens qui m'ont... Les grands artistes, les grands peintres, les grands écrivains, tout ça. Et des peu connus aussi, des oubliés. Voilà, j'ai mon petit monde comme ça.
Parce que vous dites une carrière, j'ai pas fait une carrière, j'ai fait des rencontres dans ce livre. Vous dites ça et c'est très juste. Est-ce qu'il y a eu des rencontres déterminantes?
De n'importe quelle façon, on fait carrière dans l'armée, on fait carrière dans la police, on fait les acteurs, des baladins, on fait pas carrière. Et moi je me suis pas mal baladé, je continue et je remercie le ciel.
Il y a des rôles qui vous collent à la peau. Moi, quand j'évoque Jean-Pierre Marielle auprès de mes amis, ouais, je pense que 4 fois sur 5, on va me dire « Ah, les galettes de Pont-Aven, quelle merveille !» Est-ce que c'est plaisant ou c'est énervant d'être...
Non, c'est un très bon souvenir, c'est un très joli film. Non, moi ça me gêne pas, non, je revendique, hein. Non, pas du tout, non. Et puis d'autres choses aussi, il y a eu des choses moins... que je préfère oublier, mais ça, il faut bien mettre un peu de beurre, hein, dans des épinards. Et ça met du pinard dans le verre aussi, ce qui n'est pas mal non plus.
Voilà, Jean-Pierre Marielle, tel qu'en lui-même. Et justement, pour prolonger ce portrait, je disais que dans le livre d'Agathe Nathanson, Chantons sous les larmes, il y a des lettres où elle parle d'elle, où elle parle du vide, elle parle du manque, mais elle parle aussi de lui, elle s'adresse à lui et... Elle écrit entre autres « Tu avais des fulgurances si drôles, si pertinentes à un acteur récemment récompensé qui venait dîner chez nous. Tu avais lancé un « Ave César, tonitruant ». Au restaurant, pour une bouteille que tu voulais qu'on renouvelle, tu disais au serveur ébahi « On va rhabiller la gamine ». C'était populaire, toi, grand lecteur de Beckett et de Calais, tu aimais le vocabulaire fleuri imagé, cela te réjouissait, un peu de gaillardise t'amusait sans vulgarité pourtant. C'était joyeux et tu as fait perdurer auprès de nos amis cette gaieté de la langue du 19e siècle. Tout ça me manque. Donc c'est humble, c'est joli. Il y a un autre extrait aussi où elle parle de son métier. Elle dit voilà, tu étais toujours concerné et investi dès que tu avais accepté, mais dans un premier temps, souvent tu refusais le rôle qu'on te proposait, par pudeur sans doute, par modestie peut-être, et tu disais... Demandez à C ou à D, ils le feront mieux que moi, je peux vous donner leur numéro de téléphone. Puis tu te laissais convaincre, tu entrais dans l'arène et tu défendais le film comme un gladiateur. Voilà, donc c'est une manière d'entrer dans l'intimité de quelqu'un qui a marqué le cinéma et le théâtre français. C'est pas du tout une biographie, c'est une sorte de dialogue intime. De dialogue intime que j'ai trouvé personnellement très touchant et chacun soigne, je pense, ses plaies comme il peut ou comme elle peut. Et je pense que Agathe Nathanson a justement, via le biais de l'écriture, tenté de... parce qu'elle évoque aussi à demi-mot, elle travaille dans une fondation pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer, parce que les derniers mois ont forcément été extrêmement douloureux. On connaît le drame de cette maladie.
Ouais, ravages.
Les ravages. Et voir
surtout pour quelqu'un qui fait... Enfin, pour tout le monde.
Oui, hein, naturellement.
Ne méprenez pas... Non. Voilà, vous ne méprenez pas sur mes propos. Surtout pour quelqu'un dont le métier était la mémoire.
La mémoire.
Apprendre par cœur, se souvenir.
Et le verbe. Voilà, donc...
Mais en fait, ça coïncide avec les 5 ans de sa disparition.
Absolument.
Puisqu'il est...
24 avril 2019. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un grand calcul là derrière, mais elle évoque effectivement le temps qui passe, parfois très très lentement et parfois très vite, avec ses deux grands-enfants. Voilà. Donc ça s'appelle « Chantons sous les larmes, lettre à Jean-Pierre Marielle ».
Et ça sort ces jours-ci.
Et c'est sorti aux éditions du Seuil. Voilà.
Alors moi, je voulais aussi vous parler de quelqu'un qui a eu des pépins de santé, mais je trouvais que sa façon de rebondir était, même si elle est un peu géographiquement éloignée de chez nous, était suffisamment pertinente, positive et pugnace que pour vous en parler aujourd'hui. Souvenez-vous, Sufjan Stevens,
vous en avez parlé. Qui n'a pas pu faire la tournée parce que plus capable physiquement.
Exactement. Ouais. Au moment où sort son album Javeline, enfin quelques jours avant, il se retrouve chez lui à demi paralysé. Il appelle son frère qui vient le chercher. Il l'emmène aux urgences à l'hôpital et on lui diagnostique un syndrome de Guillain-Barré. maladie rare qui fait que voilà, il est immobilisé, pas du tout libre de ses mouvements, obligé d'être assisté. Il est évidemment soigné et sous médicaments, mais ça se guérit pas comme ça. Donc du coup, sa tournée est annulée. Il a un album sur les bras et plutôt que de se laisser abattre, il imagine comment, tout en étant entravé dans sa liberté de bouger, de voyager, comment il pourrait continuer à travailler. Et donc, il imagine de monter à Broadway une comédie musicale basée, non pas sur son dernier album, mais sur un de ses albums les plus emblématiques de sa discographie, qui s'appelle Illinois. Et cet album sorti en 2005, il imagine avec un auteur qui est un... On a parlé de prix Pulitzer cette semaine.
Oui, avec le film Origin, qui évoquait le destin de cette journaliste qui a écrit le livre Cast aux
USA. Eh bien, c'est un autre lauréat du prix Pulitzer, Jackie Sibley's Dreary, ainsi qu'un lauréat du Tony Award. Donc, c'est la récompense de la scène.
Oui, le théâtre.
Du théâtre, oui. Aux États-Unis, qui, lui, est plutôt chorégraphe. Donc, ces deux personnes, avec lui, imaginent de monter un spectacle autour de cet album, Illinois, qui devient sur scène Illinois. Et ils sont partis pour 16 semaines de représentation à Broadway dans un théâtre, mais on nous précise, il s'agit d'un spectacle dance-driven, dialogue-free. Donc c'est une troupe de danseurs qui vont jouer, interpréter et danser l'histoire illustrée par les chansons de son album sans une ligne de dialogue. Et c'est donc la manière pour Sufjan Stevens de transcender quelque part la maladie pour revenir malgré tout en activité et sur scène à travers des danseurs qui vont se produire sur ses chansons et sur son album Illinois. Donc ça va commencer le 24 avril, je vous disais c'est un peu loin de chez nous géographiquement, mais je trouvais que c'était intéressant de voir comment voilà, des gens qui sont frappés de manière brutale et inattendue par une maladie qui remet en question le sens de leur vie, finissent finalement par rebondir et imaginer comment ils peuvent contourner l'obstacle et se réinventer autrement. Donc un extrait de cet album Illinois qui devient Illinois sur scène, c'est Sufjan Stevens.
Vous ne l'avez pas fait exprès, mais cette émission contiendra décidément beaucoup de choses que j'aime, puisque ce morceau, je me dis, mais d'où je le connais, il a été utilisé, c'est une des deux chansons de Sufjan Stevens qui est utilisée dans ce film merveilleux qu'est A Little Miss Sunshine. Et d'ailleurs, il y a dans les paroles, In My Van, etc., il y a une adéquation très nette.
Et donc, votre Shazam interne vous a alerté.
Oui, c'est mon Shazam interne. Oui,
donc, si vous passez par New York, cette comédie musicale, pour 16 semaines, dès le 24 avril. Et on le félicite. Voilà, c'est plutôt, réjouissant.
Oui, et puis cette musique fonctionne presque comme un hymne alternatif, c'est formidable.
C'est vrai.
Bien, vers quoi va-t-on maintenant?
Vers ce qu'on n'a pas souvent l'habitude d'évoquer, enfin c'est pas systématique, une saison 2. En général, on parle de la saison 1.
Mais il faut parfois suivre, et les saisons conclusives.
D'autant que cette série Amazon Prime, série australienne qui a pour titre Wolf Like Me, est une série qui est très très vite... englouti, à savoir des épisodes de 20 minutes, 6 épisodes dans la première saison, 7 épisodes dans la saison 2 qui vient d'arriver. J'avais déjà évoqué la saison 1, qui est une...
Je me souviens qu'il y avait un gros garçon qui jouait dans la Belle et la Bête.
Oui.
La version live.
Et aussi La Reine des Neiges, il est la voix du bonhomme de neige de Olaf.
Voilà.
Josh Gad. Est américain. La série est australienne et l'interprète féminine face à lui est australienne. Elle s'appelle Isla Fisher. Elle est plus connue pour être la femme, oui. Oui, oui, de Sacha Baron Cohen.
Voilà, voilà,
mais elle est australienne. Donc c'est sur ces deux acteurs et actrices que repose véritablement cette série, qui met face à face Gary, un homme assez sensible, timide, prévenant, qui vit seul avec sa fille depuis le décès de sa femme. Et par le hasard le truchement d'un accident de la route, il percute une voiture. Dans cette voiture se trouve Mary, une fille voilà, de son âge, mais qui vit seule. Et quelque part, cet accident, chacun au volant de sa voiture, les réunit et les rapproche. Et là, on tombe vraiment dans la rom-com. Sauf que, au fil des épisodes de la saison 1, on s'aperçoit que Mary, cette femme, oui, célibataire...
C'est qui qu'est loup-garou ? C'est elle ou c'est lui ?
C'est elle.
Ah, c'est elle !
Cache un secret qui sera révélé au fur et à mesure des épisodes, mais sans trop en dire, jusque l'épisode final où on s'aperçoit effectivement que son secret, qu'elle compte garder parce qu'elle ne veut pas détruire cette relation qui est à la fois de proximité et de distance, parce qu'elle veut à certains moments prendre ses distances pour éviter d'effrayer son nouveau compagnon potentiel, on s'aperçoit qu'en fait elle est atteinte de lycanthropie, donc elle est louve-garou. Louve-garou, et c'est vraiment à la fin de...
Louve-garoute.
À la fin du dernier épisode de la saison 1, qu'on bascule, oui, vers autre chose, et de la rom-com, on arrive plutôt dans le film de genre, et les genres se mélangent quelque part. Et donc, on attendait effectivement...
Comment transformer l'essai ?
La saison 2, pour savoir, oui, comment, d'autant que c'est très très drôle, qu'ils tiennent vraiment la boutique, ces deux comédiens. Ils sont extrêmement... touchant et très très crédible dans leur approche de leur personnage, de leur rencontre, avec une forme de timidité, mais en même temps d'avoir envie de trouver quelque part chacun la résilience par rapport à la situation douloureuse qu'ils vivent, même si la situation de la femme, on ne la connaît qu'en fin de saison 1. Elle est d'ailleurs assez surprenante, parce qu'on tombe vraiment dans le film de genre, mais aussi dans quelque chose d'assez violent et un peu gore. Mmh. Donc saison 2, 7 épisodes de 20 minutes, où là, on passe à la phase suivante. Ils sont en couple et ils ont un défi à relever. Madame est enceinte. Et donc, on a toute une sorte de situation kaléidoscope. Est-ce qu'elle aura une grossesse normale ? Est-ce qu'elle va accoucher
d'un bébé poilu ?
D'un bébé ou d'un louveteau ?
Ouais.
Ou accoucher avec quel encadrement médical ou pas ? Des médecins ou des vétérinaires ? Vous voyez ? Et puis alors, est-ce qu'on va pouvoir garder le secret ? Parce qu'elle s'arrondit de plus en plus. Donc à un moment donné, il faudra bien que ce bébé apparaisse. Mais sous quelle forme ? Comment vont-ils le présenter ? Elle a évidemment des angoisses et des cauchemars où la nuit, elle rêve qu'elle dévore son bébé au moment de l'accouchement. Tout ça est montré. Donc on est nouveau dans un problème de couple qui, par moments, bascule dans le cinéma de genre et dans le cinéma horrifique.
Et c'est plutôt humoristique ou plutôt effrayant ?
Ni l'un ni l'autre. En vrai, c'est surtout, je dirais, une parabole autour de la complexité des couples, parce que dans leur situation qui est totalement extrême, on s'aperçoit qu'en fait, tout particulier qu'il soit, il rencontre les mêmes problèmes, les mêmes interrogations d'à peu près n'importe quel couple. Et c'est en ça que la showrunneuse australienne Ebi Forsyth est très très habile dans son écriture et dans la manière de présenter les choses. C'est qu'on est à la fois dans un face-à-face homme-femme dans un couple avec des anomalies. Celle-là est vraiment soulignée de façon très très marquée, mais en vrai c'est pas très très éloigné des problèmes de couple que peuvent avoir leurs voisins qui eux ne sont pas dans cette situation extrême. Voilà, et c'est l'occasion de créer donc des parallèles avec ce qu'on peut vivre dans une vie, je dirais, relativement normale. Et il y a des séquences assez réalistes sur le fait d'être parent, et sur le fait d'être parent à un moment où on a des angoisses parce qu'on va accueillir un nouvel enfant.
Est-ce qu'on est parti pour une saison 3 ?
Ah oui, c'est de nouveau, je ne veux pas vous dévoiler la fin du dernier épisode, mais il y a un cliffhanger total dans la fin de cette saison 2 qui ne peut couvrir à une saison 3. Et on peut imaginer que, étant donné que ce sont des épisodes assez courts, que les effets spéciaux sont pas non plus
démesurés,
c'est relativement bon marché à fabriquer. Ce sont des épisodes courts, il y en a pas énormément. Oui. Je pense que la saison 3...
L'économie de la série est viable.
Je pense pas que l'exigence de Amazon Prime va être... Non, ils ne sont pas très exigeants.
Attendez, vous avez fait une phrase. L'exigence d'Amazon Prime, la plateforme qui héberge les Franck Gastambide et autres. Parce qu'il y a encore, une nouvelle comédie qui vient d'arriver française avec...
Un truc de filles, avec
Ramsey et une héroïne. Je n'ai pas encore eu le courage, je ne suis pas certain d'avoir d'ailleurs...
Il n'y aura aucune exigence de la part de la semaine des 5 heures de vous lier sur une chaise et de vous tenir les yeux avec des allumettes.
Non, c'est-à-dire qu'on essaie quand même de faire un petit tri, parce que la vie est courte. Donc
Ça s'appelle Wolf Like Me. Il y a des punchlines, les acteurs sont très très drôles, ils sont très bons, ils tiennent vraiment la boutique. Josh Gad et Isla Fisher qui, je pense, re-signeront pour une saison 3. Et je pense qu'on les laissera.
Très bien. Bon, alors, on a écouté quelquun qui ne peut pas se déplacer, mais qui a une comédie musicale à Broadway. Est-ce qu'on écoute quelqu'un qui se déplace maintenant,
surtout,
qui a une tournée prévue?
On va surtout écouter un groupe qui va jouer mercredi prochain, le 3 avril.
Ah oui, donc il se déplace.
À l'ancienne Belgique, oui. Et du coup, je vais aussi me déplacer, puisque le 3 avril, le Cackleverse va prendre...
Le Cackle Show.
Oui, le Cackle Show va prendre la main sur la semaine des 5 heures pour un débat.
C'est l'ouverture de la Foire du Livre.
Ah, voilà.
C'est l'ouverture.
Le livre, c'est un truc avec des pages.
Oui, vous savez, j'en apporte régulièrement dans cette
émission.
Mais
souvent, il y a des dessins.
Si vous voulez, je vous donne celui d'Agathe d'Attention, Chanteau sous les larmes, et le grand n'importe quoi de Jean-Pierre Marier. Mais le grand n'importe quoi, vous me le rendez parce qu'il est dédicacé.
Ne prenez pas ce risque. Bientôt, le moment des barbecues arrive et je risque de...
Enfin bref, donc Eddie Cackleberg fera une émission en direct mercredi, le soir d'ouverture de la Foire du Livre.
Et donc, pour le coup...
Ce soir-là, vous pouvez aller au concert.
Oui, voir à l'ancienne Belgique, icône de Bunnymen. Et donc c'est l'occasion de les saluer, puisqu'ils seront mercredi prochain à l'ancienne Belgique. Will et Mac et moi, finalement, à la baie.
Vous faites la première partie.
Non, mais je serai là.
D'accord.
Merci, Eddie Cackleberg. Donc, à la baie, icône de Bunnymen, c'est pour mercredi prochain.
Alors, vous avez évoqué une série qui n'est pas trop chronophage, puisque cet épisode de 20 minutes pour la deuxième saison. Qui dit mieux ? Eh bien, moi, j'ai encore mieux. J'ai une série de 21 épisodes. Mais chaque épisode dure entre 3 et 4 minutes.
Moi, j'ai mieux. Hein.
Oui.
Ouais, c'est les Kobe, vous savez, les petits. Les Kobe à roulettes. C'est des épisodes de 1 minute 10.
Et quoi, c'est sur TikTok, ça, non ?
Non, c'est sur Netflix.
D'accord. Eh bien, donc là, vous faites bien d'évoquer le fait que c'est une série animée. La série que je vais vous évoquer de 21 épisodes, chaque épisode aussi entre les 3 et 4 minutes, ça s'appelle Samuel. C'est arrivé sur Arte. Une saison donc, et c'est une série animée. Le pitch est très simple. Samuel a 10 ans, il tient un journal et il a un problème. Son copain Basile a dit à la grande Julie que Samuel l'aimait. C'est faux, il s'en fiche de Julie. C'est juste qu'elle a rigolé à l'une de ses blagues et qu'il a trouvé ça sympa de sa part. Bon, en fait, Samuel, il aime Julie, mais personne ne doit savoir. Voilà, donc en fait, c'est un garçon qui est de 10 ans, qui est dans sa classe et qui tient un journal et qui est donc amoureux en secret d'une petite condisciple de sa classe. Le traitement est absolument formidable parce que je dis, Samuel, il tient un journal. Donc on voit de temps en temps des phrases écrites à la main. On le voit débarrer l'épisode à écrire son journal. Et en fait, c'est en dessin animé, mais c'est vraiment du dessin. Et j'ai envie de dire, c'est en noir et blanc, mais c'est même carrément n'y a pas de contraste. C'est comme on dessinerait dans un journal. Donc, il n'y a même pas des grands aplats noirs. Non, c'est du dessin qui se crée sous nos yeux. Et naturellement, c'est raconté avec une voix off, la voix de Samuel Dizan. Et l'originalité de la série, c'est que ça a été créé par une jeune dessinatrice animatrice de 27 ans qui habite Angoulême, qui s'appelle Émilie Tronche. Nom difficile comme nom d'artiste. Enfin, c'est son nom. En attendant, voilà.
Il y a bien Oscar les vacances.
Oui, il y a bien déjà un dessinateur de BD qui s'appelait Tronchet. Donc, nous avons Émilie Tronche qui a signé toute seule comme une grande. Enfin, il y a une petite équipe, naturellement, mais qui a imaginé ces épisodes et qui elle-même donne sa voix. C'était parce qu'une voix de jeune fille de 27 ans, elle s'est rendue compte qu'elle a fait des essais comme ça, des tests juste pour au moment où elle façonnait sa série. Et puis finalement, ça a été jugé très concluant. Et donc, c'est une série entièrement, très, très, très personnelle, puisque c'est elle qui a la voix de ce petit garçon. C'est pas une voix petit garçon comme mon cher oncle Bill. Non, il n'y a pas du tout de côté, ou même dans les adaptations de Titeuf, on n'est pas du tout dans de la caricature, on est beaucoup plus dans de l'esquisse réaliste.
Ça me fait penser à Marcel Dechelle, ce petit coquillage qui parle.
Voilà. Et on est dans quelque chose de totalement réaliste, mais en tout cas de totalement minimaliste sur le plan du dessin. Certains amateurs du dessin très fini vont dire « enfin, c'est du gribouillis ». Non, c'est du croquis qu'on pourra en trouver dans un journal. Mais parfois, un petit dessin peut dire plus qu'un long discours, parce que la manière dont c'est écrit, dont c'est pensé, est d'une justesse étonnante. Et tout ça à travers des petits épisodes, avec des passages, je ne dis pas des passages obligés de la vie scolaire, mais bon, il y a la piscine, il y a la chorale, il y a le voyage scolaire, et tout ça fonctionne comme des petites scénettes. Alors, il y a aussi une utilisation très intéressante de la musique. Il y a parfois de la musique qui vient en contrepoint, et puis parfois de la musique qui fait partie de l'action. Parce que Samuel, comme beaucoup de gosses, il aime bien danser dans sa chambre. Et par exemple, le premier épisode, c'est absolument sidérant. Il danse sur « The Winner Takes It All » de ABBA, qu'il rechante lui-même comme une comptine. Et on voit ce petit personnage s'animer. Je trouve qu'il y a une espèce de fragilité, mais en même temps, de fragilité magique, parce qu'on revient vraiment à l'origine même, enfin, vous savez combien j'aime le dessin, et l'origine même du dessin animé, c'est-à-dire littéralement le dessin qui s'anime sous nos yeux.
Il prend vie.
Voilà, et ici, c'est particulièrement légitime, puisque, quelque part, la voix off nous donne le sentiment d'entrer dans la psyché, dans le monde intérieur de ce petit garçon, puisqu'il tient un journal et qu'il dit « cher journal » et qu'on voit la page se remplir de ses écritures. Donc il y a à la fois de l'écriture qui apparaît sous nos yeux et puis le petit Samuel. C'est étonnant parce que les personnages ont des grands yeux. La plupart du temps, Émilie Tronche ne leur dessine même pas de nez, c'est même pas nécessaire. Elle va à l'économie. Et en fait, elle a expliqué que le premier épisode, elle l'a réalisé en 5 jours, très très vite, et qu'elle voulait garder cette spontanéité pour être quelque part en symbiose avec ce qu'elle fait, ce qu'elle décrit, c'est-à-dire un journal où on griffonne, où on essaye de mettre au clair ses sentiments, ses impressions. C'est très, très, très délicat. Alors ne cherchez pas, amateurs de dessins sophistiqués, léchés, passez votre chemin, ce n'est pas du tout pour vous. Vous allez dire, mais c'est du gribouillis. Ceux qui, par contre, se disent que le minimalisme a ses vertus et ses forces, à mon avis, vont pouvoir vraiment accrocher. Alors, comment regarder ça? Mais j'ai envie de dire, il ne faut pas forcément regarder en binge-watching les 21 épisodes. Plutôt, justement, regarder par grappe de 3, 4 ou 5, et puis retrouver comme une sorte de rendez-vous, comme si on ouvrait de nouveau le journal de Samuel. Tiens, où est-ce qu'on en est? Voilà, parce qu'il n'y a pas de suspense, une fois encore, ce sont des...
Ni de chronologie.
Ce sont des scénettes. Il y a quand même un fil narratif, puisqu'il y a ce sentiment... Interdit, difficile à exprimer pour ce petit garçon vis-à-vis de la grande Julie. Donc voilà, ça s'appelle tout simplement Samuel. C'est dispo sur Arte et je vois que c'est dispo, le site indique que c'est dispo pour 2 ans, jusqu'au 29/4/2026. Donc vous avez le temps, mais n'hésitez franchement pas, c'est plus qu'une curiosité, c'est vraiment un des apports intéressant d'Arte. Il y en a beaucoup cette semaine, j'en évoquerai d'autres encore. J'en ai évoqué un hier soir, j'en évoquerai encore d'autres. Voilà.
Bien, bien. Je ne voulais pas casser votre instant poésie, mais mes hamsters à roulettes s'appellent en fait les rongeurs à moteur.
Oh,
voilà, rongeurs à moteur. Ça, si vous êtes amateur de psychédélisme, les rongeurs à
d'accord.
moteur sur Netflix, c'est indescriptible. On a parlé tout à l'heure de rebondir, de résilience avec Sufjan Stevens.
Ouais.
Je voulais vous parler d'un artiste qui sera, et c'est suffisamment rare que pour le signaler, qui va prendre du temps en Belgique, puisqu'il sera chez nous pour une volée de dates. Il y aura Liège, il y aura Mons en octobre prochain, Anvers-Gand, deux soirs à l'ING Arena à Bruxelles, après avoir bourré le Cirque Royal. Il s'appelle Sadek Beraba. Et Sadek Beraba vient avec un spectacle qui a pour nom Murmuration. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, le public va découvrir des danses hypnotiques qui sont basées uniquement sur des mouvements de bras.
D'accord.
Il a commencé à poster des vidéos avec quelques participants où il synchronise des mouvements sur YouTube. C'était il y a environ 7 ans. C'est devenu viral. Il a immédiatement connu une notoriété fulgurante à travers ses petites vidéos. Il était engagé par Shakira, le Black Eyed Peas ou Jennifer Lopez pour créer des chorégraphies particulières. Le monde de la mode s'en est emparé, notamment Christian Louboutin. Le monde de la pub, Mercedes, Samsung, tout le monde se l'est arraché. Aujourd'hui, c'est une véritable star dans son genre. Et pourquoi je vous parle de résilience ? C'est parce que, avant tout ça, ce Sadek Beraba, il a vécu dans la rue pendant 2 ans. C'était un SDF. Et à un moment, il s'est dit, il avait ce rêve de chorégraphie alors qu'il est totalement autodidacte. Et c'est en postant ses vidéos que finalement, il a réussi à exprimer ce qu'il avait envie de dire et qu'il est sorti un peu de l'anonymat et d'un destin dans lequel il était quelque part englué pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et depuis l'année passée, ses chorégraphies, il en a fait un spectacle avec maintenant 50 danseurs et danseuses. Et il présente ça devant le public. Ceux qui l'ont vu sont restés complètement scotchés. Donc il sera chez nous à l'automne prochain, en décembre, à l'ING Arena, pour 2 soirs quand même, plus le Forum de Liège. Il sera aussi au Théâtre Royal de Mons en octobre. Et ça, c'est une des musiques utilisées dans ce spectacle Murmuration de Sadek Beraba. Voilà, mon cher Hugues.
Beraba. Vous avez dit Beraba à la fin. Beraba.
Beraba.
Ouais, pardon. Sadek Beraba.
Beraba. Sadek Beraba. Murmuration. Merci à Julien Demeuse de nous avoir accompagnés de façon aussi attentive. Merci beaucoup.
Oui, mais c'est déjà sa deuxième cette semaine-ci.
Oui, hein,
donc.
Et alors, cette semaine, on a évoqué au détour de l'écoute de Paulette Verlet, on a évoqué ce pianiste hipster hollandais, Hugh Buving. Eh bien, il revient, justement. Il suffisait de l'évoquer pour qu'il apparaisse, Hugh Buving, avec, évidemment, chez Deutsche Grammophon, avec un nouveau morceau qui a pour nom Pax et qui va donner pour lui une tournée aux États-Unis. On le sait, ils sont très très friands de pianistes et de concerts de piano, pas forcément classiques, mais de concerts instrumentaux de pianistes. On prend l'exemple encore de Riopi qui cartonne véritablement aux États-Unis.
Et Dania Rani.
Et Dania Rani.
Qu'on évoque régulièrement.
On se quitte avec Youp et on se dit à demain.
Et à demain.
Et à demain.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Audio.